France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Manifestations monstres dans la capitale et dans plusieurs villes du pays, colère des agriculteurs, grève des chemins de fer, grogne des professions médicales, impopularité de l'exécutif, montée de l'extrême droite. Non, ce n'est pas de la France et de ses crises dont nous allons discuter ce matin, mais bien de l'Allemagne. Une Allemagne qui reste la première économie de la zone euro, mais qui l'an dernier plongeait en récession. Une Allemagne qui semble, en ce début d'année, douter d'elle-même, de ce qui faisait la force de son modèle et notre admiration, culture de la co-gestion et du compromis, modèle industriel puissant, relations sociales exigeantes mais apaisées, stabilité de la classe moyenne, enracinement des pratiques démocratiques, permanence des institutions et des structures politiques. Et voilà qu'à la sortie de la période Covid, au lieu du rebond attendu, plusieurs facteurs se conjuguent qui bousculent ces équilibres, révélant les crises qui traversent peu ou prou tous nos pays européens. Difficultés d'adaptation du modèle économique aux contraintes géopolitiques et environnementales, désindustrialisation, menaces de délocalisation, tassement démographique, besoin de main-d'œuvre étrangère, forte pression migratoire, fragmentation aussi du paysage politique et montée des extrêmes. Comment l'Allemagne fait-elle face à ces défis souvent contradictoires? Pourquoi les méthodes traditionnelles qui ont fait sa force marquent-elles le pas? Le récit national allemand s'assombrit, peur du déclassement, d'un déclin collectif. Jusqu'où peut-on pousser la comparaison avec la France? Marine Le Pen dit prendre ses distances avec l'extrême droite allemande. Quels sont donc les nouveaux marqueurs aux extrêmes? Mon pays est l'homme fatigué de l'Europe, déclarait la semaine dernière à Davos le ministre allemand des Finances. Quels sont les remèdes? Comment éviter que le mal-être allemand ne plombe toute l'Union européenne? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Claire de Mesmer. Vous êtes professeure à l'université de Sarre et chercheuse au centre Marc Bloch de Berlin. Avec nous, et je l'en remercie, Bénédicte Laumont, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Versailles et chercheuse au centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Ludovic Subran, vous êtes économiste en chef du groupe Alliance, et Joseph Devec, vous êtes directeur Europe d'un cabinet de conseil en risques macroéconomiques et géopolitiques, Green Mantle. Claire, je commence avec vous parce qu'il semble qu'aujourd'hui, il y ait à Berlin une nouvelle manifestation contre l'extrême droite. Celle du week-end dernier était spectaculaire. Et là, aujourd'hui, je crois, il s'agit de former une sorte de chaîne humaine autour du Bundestag, autour du Parlement.
Oui, bonjour. La chaîne humaine est annoncée pour le 3 février, mais vous avez raison, il y a en Allemagne, en ce moment, dans l'ensemble des villes, donc dans plus de 200 villes, dans plus de 200 communes du pays, des manifestations qui sont annoncées. Alors, peut-être juste rappeler que au départ de ces manifestations, il y a un scandale qui a été révélé par un média d'investigation qui s'appelle Correctif et qui a montré qu'il y avait un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère de la part de mouvements d'extrême droite, notamment l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, des mouvements identitaires. Donc, il y a certes un mal-être allemand actuellement, mais il y a aussi un réveil de la société pour dire non à ce mouvement. Et le slogan, c'est « Nie wieder ist jetzt », donc en français, le plus jamais ça, c'est maintenant. Et c'est pas anodin, puisque, alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale de commémoration des victimes du nazisme, donc c'est cette date qui marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Donc cette date n'est pas anodine, et puis ce qui n'est pas anodin non plus, c'est que cette année, en septembre, de grandes élections s'annoncent, notamment dans l'Est de l'Allemagne, où l'AfD a pour l'instant des intentions de vote qui sont très élevées. Donc l'extrême droite allemande est aujourd'hui dans des Länder de Saxe, de Thuringe, de Brandenbourg à un niveau autour de 30%. Donc c'est le premier parti aujourd'hui dans les intentions de vote. Donc voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe tant cette extrême droite qui s'est installée dans le paysage politique allemand que ce réveil de la société civile pour dire non justement à cette tendance.
Bénédicte Lomont, précisément, vous travaillez sur l'extrême droite allemande. Comment expliquer une réaction, je dirais, aussi bien organisée, vous me direz, c'est en Allemagne, mais aussi bien organisée de la société, ce qu'on appelle chez nous la société civile? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de gestion collective de ce radicalisme, en tout cas à droite, qui est très différente de ce qui se passe chez nous?
Oui, tout à fait. Bonjour. Pour continuer un peu sur ce que ma collègue vient de commencer à expliquer, effectivement, une des caractéristiques du modèle allemand qui perdure et qui s'est même, je dirais, renforcée ces deux dernières décennies, c'est une capacité de la société, d'une large partie de la société civile allemande, à se mobiliser contre l'extrême droite en général. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est particulièrement contre l'AfD, mais la présence de manifestations, y compris dans des petites villes allemandes, on les retrouve de manière massive depuis les années 90. Donc, on a un certain nombre d'articles de presse qui parlent de sursaut. Moi, je m'inscris un petit peu en faux vis-à-vis de ces termes-là, puisqu'au contraire, on a une organisation de la société civile, on a des programmes de prévention de l'extrémisme de droite depuis au moins 20 ans en Allemagne qui font et qui expliquent aussi pourquoi aujourd'hui on semble avoir une société civile dont les modes d'organisation sont bien huilé, qui sait comment s'organiser pour se rassembler massivement, pour trouver des formes d'action et de manifestation symboliques, parfois chocs. Et ça, c'est le résultat d'une véritable politique publique de prévention contre l'extrémisme de droite qui court en Allemagne depuis au moins 20 ans.
Et qui, pardon, je vous interromps, mais qui commence à l'école, dans quelle structure s'inscrit-elle?
Alors, effectivement, il y a des programmes, des actions à l'école, là qui sont des programmes anciens, qui datent vraiment de la RFA, des années 50, des années 60, mais depuis la fin des années 90, des efforts particuliers ont été menés par l'État fédéral, mais aussi par les Länder, voire par les communes, pour financer un certain nombre de programmes menés par des acteurs de la société civile qui peuvent se déployer dans les écoles, mais pas seulement, parce que les Allemands ont compris que le radicalisme de droite, ce n'est pas une idéologie qui ne touche que les jeunes, loin s'en faut, et je crois que quand on s'intéresse à l'électorat de l'AfD, on le voit, et donc ce sont des programmes que l'on retrouve dans toutes les sphères, si vous voulez, de la société allemande, et qui ne se limitent évidemment pas aux écoles. Et ça, c'est à mon avis un aspect très important pour comprendre l'originalité du modèle allemand et la capacité de couches très différentes de la société civile allemande, leur capacité à se mobiliser aujourd'hui contre l'AfD.
On comprend bien évidemment le poids de l'histoire et surtout aujourd'hui, encore une fois, journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Néanmoins, Bénédicte Lomont, on voit que cette cohésion sociale qui a toujours frappé les voisins de l'Allemagne et en particulier la France, elle ne s'exerce plus dès qu'il s'agit de mouvements sociaux qui traversent désormais et brutalement la société allemande depuis quelques mois et surtout depuis quelques semaines.
Oui, c'est sûr que sur ce sujet-là, sur la question de l'extrémisme de droite, il y a un passif historique indéniable dont il ne faut à mon avis pas non plus surinterpréter l'importance, puisqu'il y a d'autres voisins de l'Allemagne qui ont le même passif historique. On peut penser à l'Autriche, et qui n'ont pas cette culture politique d'action, notamment de prévention contre l'extrême droite. Donc ça, c'est le premier point. Cependant, il faut bien reconnaître effectivement que l'AfD s'est installée dans le paysage politique allemand, et qu'il y a un fossé qui se crée petit à petit entre des soutiens de ce parti radical de droite et au contraire une majorité encore de la société civile allemande qui est de manière très déterminée opposée. Et ça, c'est évidemment un enjeu, particulièrement dans les Länder de l'Est. Comme l'a dit ma collègue, il y a un certain nombre d'élections locales qui vont se dérouler tout au long de l'année, et il va effectivement falloir voir comment, sur des territoires où l'AfD est très populaire, la société civile opposée à ce parti et à cette idéologie va arriver à se défendre, à défendre finalement l'ordre démocratique, tout en assurant une cohésion de la société qui n'est dans certains effectivement territoires pas tout à fait assurée, en tout cas pour le moment.
Ludovic Subran, vous êtes économiste. On a vu il y a quelques jours, et c'était spectaculaire, en Allemagne et à Berlin, un défilé de tracteurs, donc la colère des agriculteurs. On voit comment elle se manifeste ces jours-ci en France. Mais bon, le secteur agricole en Allemagne est quand même beaucoup moins important que chez nous. Comment expliquer ce qui apparaît comme des fractures dans un consensus social qui paraissait quand même très installé? Et on le voit aussi avec la grève des trains, par exemple.
C'est vrai que la récession allemande de l'année dernière, et donc cette perte de pouvoir d'achat, joue énormément en toile de fond sur les risques sociaux et les risques de soulèvements sociaux. Dans le cas des agriculteurs, les raisons de la colère vont des suppressions d'avantages fiscaux aux revendications contre la bureaucratie, hein, les papiers, l'Europe. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ce relent de sentiments anti-européens, et donc cette convergence en fait avec l'AfD et aussi avec ce qu'on peut voir de la lutte contre le climat, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent des exigences environnementales. Donc en fait, l'agriculture en Allemagne, c'est pas un gros secteur, mais vous voyez que les fermiers à peu près partout, du moins les agriculteurs à peu près partout en Europe, ont des revendications. Ils sont très inquiets, à mon avis, de la transition écologique. Et là, je rejoins mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que les partis d'extrême droite, partout en Europe, affichent clairement une forme de on va pas vous de programme politique à coup de on va pas vous empêcher de vous habiller, vous loger, vous transporter, vous nourrir comme vous voulez. Donc il y a vraiment cette espèce de populisme climatique qui explose. Et ça, c'est sûr que dans un moment où on a des élections européennes dans 4 mois, je pense qu'il faut quand même garder en tête que les agriculteurs, bien sûr, ils demandent de la simplicité, bien sûr, ils demandent des subventions encore, mais surtout, ils ont peur du fait qu'ils ne puissent plus être rentables. Et l'agriculture en Allemagne, d'ailleurs, est connue pour être très peu rentable, comme l'agriculture en France, d'ailleurs, à cause de son côté atomisé.
Jusqu'ici, plus globalement, on admirait cette culture de dialogue social, de co-gestion pratiquement entre les syndicats et le patronat. On voit que les grèves dans les chemins de fer en particulier continuent, et on voit aussi s'effriter dans ce qui reste la plateforme industrielle de l'Allemagne, l'automobile, la chimie, l'acier. Je crois que ça représente un quart de la richesse nationale allemande. On voit que ce dialogue social s'abîme.
Quand vous avez une perte de salaire réel, comme on dit en économie, c'est-à-dire que la croissance de votre salaire va moins vite que la croissance des prix, c'est sûr que partout dans les secteurs, et c'est sûr que dans les transports, mais aussi dans l'industrie, les salariés, et donc ce Mitbestimmung, cette codétermination qui est chère au modèle allemand avec des partenaires sociaux à la table et dans les conseils d'administration, est clairement en difficulté. Partout, on entend le problème de... Les négociations salariales en Allemagne sont souvent signées pour 2 ans. Il y a eu une vague en septembre qui a été assez décevante, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Le secteur de la construction, par exemple, demande 20% augmentation des salaires. Le secteur, en effet, des transports demandait, je crois, 15%. Donc, on a des demandes assez iniques, en fait, par rapport à la rentabilité des secteurs dans lesquels ces demandes sont faites. Et il y a cette idée de rattrapage de la perte de pouvoir d'achat qui a eu lieu en 2023. Et donc, c'est sûr que la tension est là. On est dans un moment aussi où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et donc, il y a cette codétermination est mise à l'épreuve, bien sûr. Parce que les profits des entreprises allemandes ont plutôt bien tenu en 2023, malgré la récession. Ce qui montre que l'effet de la crise énergétique, de la baisse des exportations vers la Chine, tous ces effets-là n'ont pas forcément mis à mal les profits. Et donc, en revanche, les salaires, eux, ont été la variable d'ajustement. Et donc, forcément, maintenant, il y a un retour de bâton.
Mais précisément, ce qui faisait la force de l'économie allemande et aussi sa forme de dépendance, on l'a vu bien évidemment par rapport au gaz russe, on le voit aujourd'hui par rapport au marché chinois, dont l'automobile allemande et la chimie ont un besoin massif. On voit aussi la concurrence, et notamment batteries, voitures électriques, que les entreprises chinoises désormais vont installer en Europe, et notamment en Hongrie. Comment est-ce que l'économie allemande devient, jusqu'à un certain point, victime de ses succès vis-à-vis de la Chine?
Non, c'est sûr, l'économie allemande s'est construite sur une défense américaine, des exportations vers la Chine et du gaz russe pas cher pour faire tourner sa base industrielle. Et donc ces trois moteurs-là aujourd'hui, ou ces trois facteurs de croissance sont à l'arrêt, voire en retournement de force. Et donc c'est sûr que le problème de l'Allemagne aujourd'hui, c'est de retrouver des relais de croissance. Et donc tout ce qui est transition énergétique va trop lentement pour donner un prix de l'énergie prédictible et puis assez faible à l'industrie. Le commerce mondial va pas si bien que ça. On est dans un retour du protectionnisme très fort. Il y a une augmentation des mesures protectionnistes en 2023 de 40% par rapport à 2022. Et bien sûr, l'Allemagne est dans cette situation où en Europe aujourd'hui, elle est plus faible. Et elle sait que son modèle, donc notamment le modèle ordolibéral, c'est-à-dire de cette Sozialmarktwirtschaft, l'idée que l'État n'intervient pas trop dans les affaires de l'économie, n'est pas forcément partagé par les autres, puisque le modèle souverainiste français, les politiques industrielles sont à l'honneur aujourd'hui, pour d'ailleurs contrer ce que font les Allemands et ce que font les Américains et les Chinois. Du coup, l'Allemagne se retrouve à ne pas savoir, elle est vraiment prise dans les phares d'une voiture. Et ça, il faut vraiment comprendre. Cette coalition est faible, mais le patronat allemand lui-même ne sait pas comment réagir pour retrouver cette compétitivité naguère si importante pour le modèle allemand. Et donc, la seule façon de la retrouver pour eux, et d'ailleurs, vous parlez de ce que Christian Lindner a dit à Davos, c'est patience. On va faire les mesures qu'il faut, on va simplifier, on va déréguler, mais en revanche, on ne fera pas, comme font les autres peut-être, on ne fera pas de la croissance à grand tombereau d'argent public. Et ça, c'est vraiment le modèle allemand dans toute sa splendeur, mais ça risque, pour le coup, d'être extrêmement coûteux en termes de croissance et aussi en termes de risque social pour les quelques années à venir. Ça rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire récente, 2002-2007, l'Allemagne était obsédée par son orthodoxie budgétaire et elle croît proche de zéro pendant 5 ans, c'est les dernières années Schröder, et c'est cette idée qu'il faut qu'on soit compétitif. À part que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, être compétitif ou concurrentiel, ça ne se fait peut-être pas de la même façon que ça se faisait il y a 20 ans ou 25 ans.
Et la sortie du nucléaire que Mme Merkel avait décidé pour des raisons en fait d'alliance politique avec les Verts à l'époque, est-ce que le patronat le regrette, le réclame?
Le patronal, je pense que le patronat le regrette et l'a toujours regretté. C'est-à-dire cette position très dogmatique et malheureuse en fait pour le patronat allemand, notamment le BDI et les industries. Mais c'est vrai que c'est un tabou dans les cercles affairistes allemands. C'est un énorme tabou. En étant français, moi j'avoue que souvent je fais des blagues là-dessus ce sont des blagues qui ne passent pas très bien, je vous avoue, parce qu'ils savent qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assises et que même s'il y a eu 130 milliards dans l'énergie 22, cette transition énergétique qui ont été dépensée en 10 ans, en fait ils savent que leur mix énergétique, une fois la crise avec la Russie arrivée, a été complètement chamboulé et qu'ils sont dans une situation difficile. Ils n'ont toujours pas vraiment de plan de transformation du secteur de l'énergie, alors que ça fait déjà 2 ans, on ne sait pas ce qu'on fait avec les technologies, on ne sait pas ce qu'on fait avec l'hydrogène, on ne sait pas ce qu'on fait avec les services publics, hein, la provision du maillage, ce qu'on appelle les utilities en bon français. Et donc, c'est sûr que le patronat allemand menace souvent de délocaliser, de regarder notamment les États-Unis, de baisser les capacités de production industrielle en Allemagne, en essayant de relancer ce débat sur le mix énergétique allemand. Mais il y a une fin de non-recevoir à Berlin qui est manifeste, notamment parce que les Verts sont dans la coalition.
Joseph De Weck, on a été très longtemps à la fois admiratif et, il faut bien le dire, un peu agacé par le récit national allemand, ce récit de réussite économique et de paix sociale. Jusqu'à quel point ce récit est aujourd'hui, selon vous, ébréché?
Je pense que c'est une des raisons pour la crise politique et économique que le pays est en train de traverser en ce moment. Il y a 10 ans, il y avait en Allemagne un sentiment presque d'exceptionnalisme. L'idée que les Allemands, ils avaient compris mieux que les autres Européens comment faire tourner une économie, comment créer de la croissance. Et de l'autre côté aussi, cette idée que les Allemands, comparé à la France, avait aussi un système démocratique, politique, mieux rodé, qui permettait d'avoir plus de compromis, d'avoir un système politique plus participatif, qui expliquait aussi pourquoi il n'y avait pas d'extrême droite forte dans le pays. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, d'une certaine manière, souvent on a un peu l'impression, quand on écoute les politiques de droite et surtout d'extrême droite dans ce pays, on entend un discours qui ressemble beaucoup à un discours qu'on entend en France. Cette idée que le pays est en déclin, Ludovic Soubran a mentionné que ça fait maintenant des années qu'il y a une stagnation économique, presque depuis 2019, que le pouvoir d'achat a reculé. Mais aussi après un sentiment que le système politique est devenu plus antidémocratique et peut-être aussi moins puissant. Il a moins de résultats qu'avant. Et c'est cette ressemblance qui, avec la France dans le discours politique, qui nous frappe vraiment. Mais après, il faut aussi dire que même après ces 4-5 ans de stagnation économique dans le pays, l'Allemagne, le PIB par tête de l'Allemagne reste un cinquième plus élevé qu'en France. Le chômage aussi reste plus bas qu'en France. Alors, d'une certaine manière, on a un sentiment de crise, on a un sentiment de déclinisme qui s'installe en Allemagne, mais on n'est pas encore dans une crise très très forte. Par exemple, quand on a vécu à la fin des années 90, quand l'Allemagne a été nommée l'homme malade de l'Europe, où le chômage était à 10%, et le pays se sentait vraiment à bas.
Mais néanmoins, Joseph, les chemins de fer, ça c'est quand même très révélateur. On a l'impression qu'il n'y a pas eu les investissements suffisants pour entretenir les infrastructures, par exemple.
Oui, le frein de dette a été mis en place il y a presque 15 ans. Et maintenant, lentement, on s'en rend compte, on mesure les effets des sous-investissements des dernières années. Les chemins de fer, mais c'est aussi des histoires plus anecdotiques. C'est la toilette à l'école de son enfant qui n'a pas été rénovée depuis des années, alors qu'elle faudra. Il y a un sentiment, d'une certaine manière, que la politique, elle livre plus de résultats et que les choses, ils se dégradent. Et c'est sur ces sentiments-là aussi que l'extrême droite, elle peut jouer. Si vous voulez, l'extrême droite, elle a 3 grands messages. D'un côté, il faut faire sortir les étrangers, avoir moins de migration. De l'autre côté, le grand message que Berlin s'occupe plus des intérêts des Allemands et s'occupe seulement des intérêts de eux-mêmes. Et troisièmement, un message plutôt de politique étrangère, ça veut dire anti-américanisme, anti-européanisme et pro-russe. Et vraiment, cette idée de déclin, qui est un déclin un peu ressenti, mais aussi réel, même s'il reste très relatif par rapport à la France, c'est un peu le tremplin de cette extrême droite.
Claire de Mesmer, on voit à quel point les difficultés économique et sociale, évidemment, assaille ce gouvernement, dont il faut toujours rappeler la composition tricolore, on l'appelle d'ailleurs, je crois, la coalition tricolore, donc oui. Avec les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, et ça grince sans arrêt entre eux. Cette culture du compromis, on a l'impression qu'au sein même du gouvernement allemand, ça ne fonctionne pas très fort.
Ça grince depuis le départ. C'est une coalition qui a été compliquée à mettre en place, avec en effet donc une coalition feu tricolore en référence au feu de circulation, donc rouge, jaune, vert, avec trois partis qui s'entendent sur pas grand-chose, à vrai dire. Et notamment entre les jaunes, à savoir les libéraux du FDP et les verts, il y a très peu d'éléments communs ou de revendications communes. Donc c'est compliqué depuis le départ. Ce qui aujourd'hui complique les choses, c'est d'abord la situation économique et politique, bien sûr, la guerre d'agression russe en Ukraine, qui fait que on l'a entendu tout à l'heure, les fondamentaux du modèle allemand sont remis en question. Et là, on a des positions qui sont différentes sur les questions énergétiques, notamment. Les libéraux, les verts ne sont pas forcément sur la même ligne. Sur le modèle économique en général, sur la question militaire aussi, l'envoi d'armes en Ukraine. Donc, on a sur... En fait, la guerre en Ukraine vient attiser des différences qui étaient déjà là au départ. Et puis... il y a aussi une situation budgétaire qui est compliquée, puisque la Cour constitutionnelle, il y a quelques semaines, a noté que, vient de déclarer que, il y avait un fonds spécial hors budget de 60 milliards d'euros que le gouvernement avait créé pour moderniser, pour décarboner l'économie. Et bien, ce fonds a été déclaré inconstitutionnel. Car il va à l'encontre du frein à la dette qui est ancré dans la loi fondamentale, donc la constitution allemande. Et là, cette décision de la Cour constitutionnelle vient encore renforcer la pression sur le gouvernement fédéral, il va falloir économiser. Donc économiser dans une situation qui est déjà compliquée, alors qu'on s'entend sur très peu de choses, hein, sur les grandes questions politiques, ça crée des tensions. Et puis, il y a un chancelier fédéral, Olaf Scholz, qui n'a pas réussi à s'imposer, qui n'a pas réussi après plusieurs mois, ça fait un certain temps déjà que la coalition est au pouvoir, un chancelier qui n'a pas réussi à s'imposer et à faire preuve de leadership. Ça fait beaucoup, exactement.
Le chancelier qui est, je crois, Claire, à 19% d'opinion favorable, et il semblerait que le président français Emmanuel Macron, qui s'est rendu lundi dernier à l'hommage en l'honneur de Monsieur Schäuble, qui était un grand européen et qui a été très longtemps un ministre de l'économie et des finances très admiré en Europe, donc Emmanuel Macron s'est exprimé en allemand, et il semblerait qu'il ait eu droit à des compliments de la part de la presse allemande, en disant il ferait un très bon chancelier.
Oui, alors le discours d'Emmanuel Macron en allemand a été en Allemagne et en allemand, donc au Bundestag, au Parlement allemand, a été très remarqué, a été fortement relayé dans la presse allemande. Le fait qu'il parle en allemand, évidemment, lui a apporté quelques points. Et puis, il y a eu un article dans la Süddeutsche Zeitung qui titrait « Est-ce que Emmanuel Macron est le meilleur chancelier ?» Enfin, je crois que d'ailleurs, il n'y avait pas de point d'interrogation, c'était plutôt une affirmation. J'ai aussi parlé de ce discours il y a peu de temps avec mes étudiants en SAR, et c'est vrai qu'eux aussi étaient sous le charme et trouvaient que c'était très bien. Et en fait, ce qu'on note, c'était aussi dans cet article de la Süddeutsche Zeitung, justement, Macron, meilleur chancelier, c'est cette question de la vision. et ce qu'on reproche à Olaf Scholz en tant que chancelier, c'est à la fois son absence de vision pour les prochains mois, pour les prochaines années. Donc, comment créer un nouveau modèle pour l'Allemagne, puisque l'ancien modèle ne fonctionne plus. Et puis, cette question, je le disais, du leadership, donc créer une cohésion pour que cette coalition qui est compliquée puisse fonctionner et puisse arriver à prendre des décisions et puis à montrer une direction, tout simplement.
Le poids de ces défis contradictoires, Claire de Mesmer, d'un côté une démographie qui est vraiment en déclin depuis longtemps et beaucoup plus fortement qu'en France, une moindre confiance dans le système politique et le besoin de main-d'œuvre étrangère et ce que vous disiez, c'est-à-dire cette impression qu'en fait l'argent va plutôt aux étrangers. Comment un gouvernement, quel qu'il soit, et surtout celui-là, peut-il concilier des défis aussi contradictoires ?
Ah bah oui, trouver un programme politique dans une situation aussi tendue, évidemment c'est compliqué, mais enfin l'Allemagne a quand même n'est pas dans une situation catastrophique, a une industrie solide, certes a un problème de main d'œuvre, mais a aussi une main d'œuvre qui est bien formée. Donc bon, la situation n'est pas complètement n'est pas catastrophique. Mais il y a un point que j'aimerais souligner, c'est vous l'avez dit, cette moindre confiance dans la politique. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en Allemagne et qui s'est vraiment installé au fil des crises. Et ça, on le voit, il y a une étude de la Fondation Ebert qui est parue il y a quelques mois sur les attitudes de la population au centre, le cœur de la société. Et on voit dans cette étude qu'une partie de ce cœur de la société civile, a tendance à prendre ses distances vis-à-vis des valeurs démocratiques et que les crises et qu'il y a un lien direct entre le sentiment d'insécurité qui sont nés des crises multiples et les attitudes antidémocratiques. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans l'expression d'extrême droite. Nous avons beaucoup parlé dans la dernière demi-heure de l'extrême droite en Allemagne, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un mouvement de la gauche radicale. Et là aussi, il se passe des choses. Aujourd'hui a lieu le premier congrès du nouveau parti de Sarah Wagenknecht à Berlin. Donc Sarah Wagenknecht est une députée du Bundestag qui vient de Die Linke, donc de la gauche radicale, qui a quitté ce parti pour créer son propre parti et qui en fait réunit les trois P. Vous savez, elle est populiste, elle est populaire, elle est polarisante. Et elle est située au niveau de la gauche radicale. Mais elle est aussi, donc elle a des positions sur les questions socio-économiques proches de Die Linke, à peu près les mêmes, mais elle souhaite aussi un renforcement du contrôle de l'immigration, elle a des positions qui sont très pro-russes. Donc c'est à nouveau une nouvelle tendance qui s'est là installée, donc ce populisme des réponses simples face à des problèmes compliqués, c'est aussi une tendance aujourd'hui dans la société allemande et dans le paysage des partis.
Bénédicte Lomont, ce populisme qui s'exprime plus fortement à l'extrême droite, mais aussi donc à l'extrême gauche, mais évidemment à un niveau beaucoup plus faible. Le problème migratoire, la présence en Allemagne, et depuis longtemps, je crois qu'il y a en Allemagne, depuis un quart de siècle maintenant, quelques 3 millions de Turcs, dont la moitié seulement a acquis la citoyenneté allemande. Il y a eu ce scandale dont on parlait d'entrée de cette réunion à Potsdam, ce programme de remigration d'une frange de l'extrême droite allemande, donc d'expulsion d'immigrés, y compris de gens qui ont la citoyenneté allemande. Le poids précisément de cette problématique migratoire. Est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là une culture de l'antiracisme équivalente à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure concernant les valeurs fondamentales de la démocratie allemande?
Oui, donc en fait, sur l'antiracisme en Allemagne, le revers de la médaille, si vous voulez, d'avoir construit une culture politique vraiment marquée par ce qu'on appelle la démocratie militante, c'est-à-dire la capacité d'une société à défendre ses valeurs démocratiques libérales, c'est qu'effectivement, jusqu'au début des années 2000, l'antiracisme et donc les mouvements sociaux antiracistes ont moins irrigué la société civile allemande que dans d'autres pays ouest européens. Pour autant, il y a une capacité qu'on observe quand même depuis une vingtaine d'années dans les mouvements sociaux à voir des groupes plutôt de culture antiraciste et d'autres plutôt de culture anti-extrême droite, on va dire, travailler ensemble, proposer justement des programmes de prévention ensemble. Et donc, on a quand même un mouvement social général qui tend à se renforcer et à rappeler que la migration, précisément, en Allemagne, n'est pas un problème, mais plutôt une opportunité. Et je voulais rappeler quand même, d'ailleurs, à ce sujet, que un des fruits, à mon avis, de l'importance de ces mouvements sociaux et du travail de lobby aussi qu'ils ont mené depuis une vingtaine d'années, c'est que quand même la coalition actuelle, tricolore, vient de faire voter une loi facilitant l'accès à la citoyenneté allemande pour des personnes nées en Allemagne, de parents étrangers. Et ça, c'est quand même, dans le paysage européen actuel, marqué, comme vous l'avez bien mentionné, par des populismes radicaux de droite, où la migration est constamment cadrée comme un problème, où la question de la citoyenneté et de l'accès à la citoyenneté est toujours plus restrictif, je pense qu'il faut quand même rappeler et souligner ce que l'Allemagne est actuellement en train de voter, qui sont quand même un assouplissement de l'accès à la citoyenneté et qui est peut-être un des points de convergence entre sociaux-démocrates, verts et libéraux au sens propre du terme.
Mais il y a eu dans le même train de loi, si j'ose dire, une loi facilitant les expulsions. Mmh. Depuis le 7 octobre, la tragédie, l'horreur du 7 octobre, la guerre, l'horreur de la guerre à Gaza, comment est-ce que cela influence l'attitude de ce cœur de la société allemande? On sait que le soutien à Israël est un inconditionnel de la politique de l'État fédéral. Je crois que c'est d'ailleurs le ministre vert de l'économie qui a dit que c'est une raison d'État, soutien inconditionnel. Néanmoins, il y a aussi, bien évidemment, des soutiens à la cause palestinienne, sinon même au Hamas en Allemagne. Donc, Bénédicte Lomond, comment est-ce que cela s'exprime?
Effectivement, on est en Allemagne dans une situation et dans un paysage politique et dans un positionnement diplomatique un tout petit peu différent d'en France, puisque, comme vous le disiez, Robert Habeck a bien rappelé que le soutien à Israël était relevé de la raison d'État, de la Staatsraison, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de déclencher un certain nombre de commentaires critiques d'une partie de la société civile allemande qui demande un positionnement plus équilibré qui prend en compte aussi les voix palestiniennes. Il faut savoir quand même qu'en Allemagne, et particulièrement dans la capitale allemande, Berlin, il y a une population palestinienne assez importante et donc un certain nombre de revendications que l'on entend de plus en plus, sans aller jusqu'au soutien clair et exprimé du Hamas, mais disons qu'on a de plus en plus de groupes, y compris antiracistes, racistes qui se mobilisent autour de la reconnaissance de la, des difficultés du peuple palestinien au Proche-Orient. Et effectivement, il y a de l'autre côté un certain nombre d'associations, de groupes politiques aussi, qui à raison rappellent l'historique allemand spécifique qui nécessite une prise en considération toute particulière des intérêts de l'État hébreu et globalement de la population juive en Allemagne et pas seulement en Allemagne. Et arriver à lier les deux relève effectivement un petit peu politiquement d'une position d'équilibriste, particulièrement dans le contexte actuel, et ce n'est pas sans générer des tensions, puisque on l'a vu dans les manifestations contre l'AFD, un certain nombre de manifestants qui s'affichaient aussi comme ouvertement pro-palestiniens ont été mis à l'écart de certaines manifestations, ce qui a généré effectivement au sein du mouvement social anti-extrême droite, antiraciste, un certain nombre de tensions.
Joseph Deweck, l'un de vos terrains d'analyse favoris est de comparer précisément ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France, et c'était très frappant dans le livre que vous avez publié il y a quelque temps sur Emmanuel Macron. Comment décririez-vous ce phénomène à la fois de reflet et de décalage entre la scène allemande et la scène française sur le plan social, culturel et plus que politique d'ailleurs?
Je pense que en Allemagne, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est à peu près ce que la France a commencé à vivre il y a 20 ans, ou peut-être des pays comme l'Autriche et la Suisse ont commencé à vivre il y a 30 ans. Cette montée des extrêmes à gauche et surtout à droite. Et on peut se poser la question pourquoi ça arrive seulement maintenant, d'une certaine manière, en Allemagne. Il y a la situation économique dont on a parlé. Mais je trouve un aspect qui est intéressant aussi, c'est l'aspect générationnel. Si on regarde qui vote pour l'AFD en Allemagne, on voit que les anciennes générations votent très peu pour ce parti. C'est plutôt les générations plus jeunes, pas les tout jeunes, mais c'est certainement pas les anciens. Alors je pense qu'il y a un effet important de l'histoire, que la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire, elle s'éloigne de plus en plus. Et d'une certaine manière, ce qui a fait que l'Allemagne était tellement différent dans son rapport à l'extrême droite, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est lentement en train de s'effacer. Alors d'une certaine manière, l'Allemagne devient un pays normal au sein de l'Europe, avec une politique fragmentée, comme on la voit en France, avec une extrême droite forte, avec une économie aussi un peu fragilisée. Et ça, c'est vraiment une situation très nouvelle pour l'Europe, parce que jusqu'à présent, l'Europe, elle s'est toujours reposée d'une certaine manière sur l'Allemagne, qui était d'un côté un pays politique stable, avec un chancelier qui avait du vrai pouvoir, qui pouvait négocier dans ses positions pro-européennes, n'était jamais mise en question, un système politique où quasiment toutes les parties étaient pro-européennes. Et de l'autre côté, l'Europe s'est aussi reposée sur cette force économique de l'Allemagne qui, s'il fallait, comme on a vu pendant la crise Covid ou avant, pouvait aussi, avec sa force économique et budgétaire, cofinancer le projet européen. Alors, la question que je me pose un peu pour l'avenir, c'est l'Europe doit commencer à apprendre réellement à vivre avec une Europe qui ressemble plus aux autres pays européens.
Précisément, Ludovic Subran, on sait le rôle moteur, c'est une image d'ailleurs que les Allemands, je crois, utilisent beaucoup moins que nous, mais le moteur franco-allemand. Bon, on sait qu'il est en panne depuis quelque temps, que la relation, disons, l'alchimie personnelle entre Emmanuel Macron et le chancelier Scholz est à peu près nulle, et que, bon, la vision du président français, comment dire, ne colle vraiment pas du tout à l'approche que le chancelier, en tout cas lui-même, a du rôle de l'Allemagne en Europe. Néanmoins, on a besoin que l'économie allemande puisse rebondir, sortir de la récession, mieux combattre l'inflation qui est nettement plus élevée, d'autant, et ça a été rappelé, que pour des raisons constitutionnelles, il n'y a pas la flexibilité budgétaire dont le gouvernement français peut se prévaloir. Donc comment est-ce que l'économie allemande peut continuer à entraîner l'économie de l'Union européenne ?
Alors, c'était tout à l'heure quand vous évoquiez le côté rockstar de Macron en Allemagne et que d'aucuns souhaiteraient qu'il soit chancelier. Je pense que quand s'il voyait combien il dépense et combien le déficit budgétaire s'accroît, je ne sais pas s'il serait si fan que ça. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne est extrêmement isolée sur le moteur public de la croissance. C'est-à-dire que cet engagement à revenir à 0,35% de déficit budgétaire structurel en point de PIB, hein, de richesse nationale, de croissance de la richesse nationale, c'est avec la Pologne et la Suisse, c'est les trois seuls pays qui ont ces règles budgétaires-là. Et pendant ce temps-là, hein, l'Italie, la France font courir des déficits de l'ordre de 5% du PIB. Les États-Unis, hein, 8% du PIB. Et donc, c'est sûr que l'Allemagne est très isolée. C'est-à-dire, elle ne veut pas éviter la récession à tout prix, comme d'autres pays l'ont fait. Et donc, elle plonge dans ce territoire négatif de croissance. Et les entreprises, les ménages n'attendent pas grand-chose de l'État pour amorcer la pompe. Alors, c'est à court terme peut-être compréhensible, puisqu'il y a encore beaucoup de richesses privées. Donc, l'idée, c'est débrouillez-vous, allez consommer, allez investir, mais n'attendez rien de nous. Donc, quand il n'y a pas de confiance, je crois qu'on l'a entendu, hein, la coalition ne fait pas vraiment rêver, ça n'arrive pas. Donc, ils ont des taux d'épargne records. Hein. Le vrai souci du ministre des Finances allemand aujourd'hui, c'est de savoir comment les Allemands vont désépargner, parce qu'en fait, ils ont une tentation de l'épargne de précaution qui est très élevée. Hein. Ils ont aussi des besoins d'épargne retraite peut-être plus élevé, etc., etc. Et donc, en même temps que l'État n'offre pas de soupape en fait à court terme, l'État est très peu présent sur les grosses transformations. Et donc, on peut penser bien sûr à la transition écologique, bien sûr au soutien au secteur numérique. Et donc, c'est vrai que l'Allemagne non seulement n'a pas de croissance à court terme, mais surtout, elle ne veut pas s'endetter pour sa croissance à long terme. Et ça, je pense que c'est très grave. Joseph le mentionnait un petit peu. Imaginez une crise de 2012, une crise de la zone euro sur les dettes souveraines italiennes, grecques, etc. Cette fois-ci, je ne sais pas d'où ça pourrait venir, peut-être sur les dettes d'entreprise, avec une Allemagne faible. Tous les mécanismes de soutien qui ont été construits au début des années 2010 ont été crédibles parce que l'Allemagne était forte. Aujourd'hui, si l'Allemagne est faible, les mécanismes de sauvegarde de l'Europe, les mécanismes de crédibilité autour d'une forme de conditionnalité à des trajectoires des endettements, avec une Allemagne faible, ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est vrai que c'est important que l'Allemagne saisisse ce moment pour rebondir, hein, pour retrouver des moteurs de croissance, et ça part pas dans le bon sens. Moi, quand je parle à pas mal de patrons allemands, ils me disent, de toute façon, on attend maintenant les élections de 2025. Donc en fait, ils sont prêts à attendre un an et demi, voire deux ans, avec peut-être un gouvernement qui fait un peu plus rêver que cette coalition un peu bancale. Et ça, moi, je trouve que c'est très grave, parce que l'Allemagne a tout pour réussir dans un monde où on recherche de l'industrie verte, on recherche de l'industrie connectée, on veut de l'innovation technologique, elle a des pôles de compétitivité incroyables entre les entreprises et les universités, elle a de l'argent, les entreprises allemandes sont très riches, très peu endettées. Donc, il y a vraiment tous les éléments de potentiel pour réussir cette mue dans un environnement, c'est vrai, plus fragmenté, plus protectionniste, plus politisé, mais elle ne saisit pas ce moment-là, elle est vraiment paralysée dans son action. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, quand notre ministre de l'économie et des finances se réjouit un peu du fait que la France va beaucoup mieux que l'Allemagne aujourd'hui, en allemand, il y a un mot hein, qui est « Schadenfreude », cette joie malsaine au malheur d'autrui. Attention, parce qu'en fait, une Allemagne faible, c'est pas bon pour toute l'Europe. Et une Allemagne qui ne croit pas à peut-être cette fin de naïveté de l'Union européenne, hein, j'en parlais tout à l'heure, ce regain pour une politique industrielle, cette idée qu'on peut en Europe être beaucoup moins passoire sur des importations de pays qui clairement font du dumping, hein, donc baissent les prix pour pouvoir exporter davantage. L'Europe a pris la mesure, en effet, de ce sujet, hein, de ne pas être la variable d'ajustement de la mondialisation sur les 5 dernières années, avec la réponse au Covid, la réponse à la guerre en Ukraine, la réponse à ces sujets d'endettement commun et tout ça. Mais là, on est dans un moment où l'Allemagne, en fait, a plus envie de jouer dans cette direction-là, ou du moins elle est tiraillée. Et encore une fois, on est à 4 mois des élections européennes. Donc, c'est pas un moment anodin dans l'histoire de la construction européenne. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille avec l'Allemagne et avec cette coalition, même si c'est plus difficile, à trouver des solutions européennes et franco-allemandes qui fonctionnent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile et certainement qui n'est pas si facile. C'est-à-dire que, je finis là-dessus, un des problèmes des entreprises allemandes, mais aussi de l'État, c'est de dire pourquoi on investirait massivement aujourd'hui alors qu'on risque peut-être de zombifier notre économie. C'est-à-dire, il y a vraiment, alors qu'en France, l'idée, c'est de dire, investissons maintenant, comme ça, on va relancer la machine et on peut peut-être jouer un rôle dans la concurrence. Les Allemands sont beaucoup plus chiches sur ce type de dépensons sans compter et voyons s'il y a une innovation qui se crée. Et ça, c'est, à mon avis, des positions, des postures qui sont irréconciliables à court terme.
Mais cela veut dire, Ludovic, qu'au niveau des institutions européennes, l'Allemagne a moins de poids sur l'inflexion des politiques communes, en particulier. Et dans la zone euro, l'Allemagne deviendrait un frein.
Alors, l'Allemagne, déjà, elle se sent très mal représentée en Europe. Il y a ce mot en allemand d'alignement, Abstimmung, et donc à Berlin, les gens rigolent beaucoup en disant, ah ben nous, quand on veut défendre une position conjointe à Bruxelles ou à Strasbourg, en fait, on fait du réseau Abstimmung, c'est-à-dire on fait de l'alignement en réseau. En gros, on a toujours une position un peu niaise, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à défendre nos vrais intérêts par rapport à d'autres. Donc, ils ont déjà cette idée que l'Europe, dans les institutions dans lesquelles on est aujourd'hui, hein, rappelez-vous, les choix d'Ursula von der Leyen pour la Commission et de Christine Lagarde pour la BCE, c'était des choix qui ont été très critiqués par le CDU-CSU, donc le parti de droite en Allemagne, en disant que ce n'est pas forcément le meilleur combo pour défendre nos intérêts. Et c'était avant la montée en flèche de l'inflation et avant qu'on ait une pandémie, etc. Donc, y a déjà
oui,
cette
mais pardon,
idée...
je vous interromps. Madame von der Leyen est allemande. Certains même se plaignent qu'elle et son équipe soient trop allemandes à Bruxelles. Et je ne citerai personne au sein de la Commission. Et madame von der Leyen veut un nouveau mandat, ce qui va évidemment impliquer au niveau du Parlement européen, dont il lui faut l'approbation, toutes sortes de discussions et donc de compromis au sens tout à fait légitime du terme. Donc, comment est-ce que l'Allemagne peut se sentir mal représentée?
Eh bien, vous savez, quand Ursula von der Leyen est devenue présidente de la Commission, il y avait cette couverture, je ne sais plus si c'était Bild ou Spiegel, qui était d'un machisme immonde, où on voyait von der Leyen habillée en lapin, en bunny woman, quoi, avec un profil du président Macron qui était un peu son master puppeteer, c'est-à-dire qui était en train de la guider. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Elle est vue en France comme représentant les intérêts de l'Allemagne, peut-être parce qu'elle n'est pas assez interventionniste ou souverainiste par rapport à d'autres membres de sa commission, mais elle est vue en Allemagne comme étant pas assez justement représentante de ce que notamment la CDU souhaite pour l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Donc là, on a des élections qui sont importantes. On a en effet cette idée qu'il faut accélérer sur une partie des choix stratégiques qui ont été faits par l'Europe, mais je trouve qu'on a très peu d'appropriation, hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'élan autour de ces élections-là, et donc il va falloir vraiment les regarder, parce que je vous rappelle que nous on vote en mai, mais les Américains votent en novembre, et malheureusement la personne qui semble tenir la corde aux États-Unis n'est pas forcément pro-européenne, pour le dire de façon très pour utiliser un euphémisme. Donc il faut vraiment qu'on se soulève et qu'on essaie de trouver des positions communes, notamment sur ces histoires de protection, d'interventionnisme, de dirigisme, de ce retour d'une économie avec une place un peu plus importante. Le président Macron l'a rappelé d'ailleurs dans ses discours récemment, pour un endettement commun ou du moins des choix stratégiques communs au niveau européen. Et là, pareil, on sait que les Allemands sont radicalement contre.
Précisément, Claire de Mesmer, on arrive vers la fin de cette conversation. Les élections européennes qui auront lieu en juin, est-ce qu'elles vont mobiliser l'opinion publique en Allemagne, telle que vous nous l'avez tous décrite? Et comment est-ce que ce gouvernement tricolore peut faire campagne?
Le gouvernement tricolore ne va pas faire campagne en tant que tel, puisque nous avons affaire à trois partis qui seront en concurrence pour les élections européennes. Donc, oui. Chacun des partis va faire campagne pour lui-même, ce qui va créer un petit peu plus de confusion encore dans le discours public, dans le discours sur l'Europe, puisqu'on a d'un côté un gouvernement qui est censé parler d'une seule voix, ce qu'il ne fait pas, et de l'autre côté des partis qui vont au contraire critiquer l'autre sur sa politique européenne ou sur d'autres questions. Donc ça va être compliqué, ça l'est toujours en Allemagne avec le système de coalition. J'aimerais revenir rapidement sur cette question du tandem franco-allemand, parce qu'en Allemagne, on parle davantage de tandem que de moteur. Oui, il y a en effet, je pense que la crise Covid a rapproché la France et l'Allemagne sur certaines questions, notamment sur cet entêtement commun, puisqu'il y a eu, l'Allemagne s'est ralliée à la position française pour créer un mécanisme d'endettement, mais il y a eu un gros malentendu, à savoir que pour la France, il était question de, on a pensé que l'Allemagne avait enfin compris qu'un endettement commun était utile, alors que pour l'Allemagne, c'était très clairement un mécanisme limité dans le temps, qui était appelé nécessairement à s'arrêter une fois que la crise serait terminée. Mais on a eu quand même ce rapprochement. Et là, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la guerre russe en Ukraine, eh bien, on a au contraire un éloignement des positions françaises et allemandes parce que les différences traditionnelles sont à la fois plus visibles et sont renforcées. Sur la question de la politique industrielle, sur la question du modèle énergétique, on a parlé pendant cette conversation du gaz, donc du gaz russe peu cher sur lequel reposait le modèle économique de l'Allemagne, avec aussi la question du nucléaire pour la France. Et puis, on en a assez peu parlé, mais c'est important, la question de la défense, les questions militaires, sécurité et défense, sur lesquelles la France et l'Allemagne sont traditionnellement, peut-être pas opposées, mais en tout cas où il y a de très très grandes différences. Et toutes ces différences sont ressorties, sont aujourd'hui sur la table. Or, avec les élections aux États-Unis qui se profilent, il est absolument indispensable d'anticiper, et là c'est déjà un petit peu tard, d'anticiper pour avoir une position européenne, ou en tout cas pour avoir une position franco-allemande commune, pour savoir comment agir, sur toutes ces questions-là, industrielles, énergétiques, sécurité et défense, si les élections aux États-Unis apportent un résultat qui n'est pas forcément dans l'intérêt européen, si les États-Unis se désengagent notamment en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient, etc. Donc il y a une vraie urgence à agir alors que les différences n'ont jamais été aussi visibles entre les deux pays.
Et est-ce que vous sentez, Claire, à Berlin ou dans les milieux politiques, mais aussi dans les milieux économiques et universitaire, parce que le poids des experts est considérable en Allemagne en particulier. Est-ce que vous sentez que cette prise de conscience est effectivement cette accélération que nous impose à nous autres Européens les perspectives de l'élection présidentielle américaine? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même ce sentiment d'urgence?
Moi, je trouve que ce sentiment d'urgence est moins présent qu'en France, hein, qu'on espère toujours en Allemagne, justement, dans les milieux que vous mentionnez, notamment les milieux universitaires, les milieux d'expertise, par exemple dans les think tanks, qu'on espère que les élections aux États-Unis apporteront un résultat favorable et que finalement on sera tiré d'affaire. Donc c'est un petit peu on attend patiemment, on croise les doigts en quelque sorte. Cela étant, je sens quand même qu'il y a là ces dernières semaines quelque chose qui bouge avec l'idée qu'il faut se réveiller. Donc voilà, par-ci, par-là, quand même, des voix se font entendre en disant attention, attention, ça risque aussi de mal se terminer et il faut se réveiller dans ce domaine-là.
Eh bien, écoutez, en tout cas, merci mille fois à vous quatre. Merci à vous, Claire de Mesmet. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Jongler avec les langues et les cultures, dynamiques identitaires des citoyens mobiles » chez Peter Lang. Je remercie bien sûr Bénédicte Laumont. Et je signale la parution le mois prochain de la revue Allemagne aujourd'hui aux presses universitaires Septentrion avec votre analyse, Bénédicte, de l'AFD. Je remercie Ludovic Subran, économiste en chef du groupe Alliance, et Joseph Devecq qui a donc publié en allemand cet ouvrage sur Emmanuel Macron, le président révolutionnaire. C'était en 2021. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Anthony Thomasson. Merci à Nezic, m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie bien sûr, comme à chaque fois, la documentation de Radio France. Et voici, nous sommes samedi, Nora Amadi, sous les radars. Bon week-end et à samedi prochain.